Et merci d'écouter France Inter, il est 7h30. Voici le journal de Jérôme Cadet. Bonjour Jérôme.
Bonjour à tous. À la une ce matin, quand les femmes des pubs ressemblent enfin aux femmes de la rue, des marques de prêt-à-porter se mettent à ce qu'on appelle le body positive. Explication à suivre. La mère socialiste de Canteleu près de Rouen ressort libre de garde à vue. Elle était entendue dans une affaire de trafic de drogue. Les viticulteurs du Jura qui pleurent sur leurs pauvres vendanges, 70% de pertes, nous les écouterons.
Et des vendanges, on en parlera avec notre invité, Émile Codin, ce jeune vigneron donc de 24 ans en Touraine. Véritable phénomène lui sur les réseaux sociaux. Il sort un livre, Le vin, ça se partage. On en parle tout à l'heure à 7h50.
À la une également ce matin, les Irakiens aux urnes, élections législatives, l'influence du voisin iranien est moins forte, nous dira Aurélien Colli qui est sur place. Et puis l'hommage de Lyon à l'un de ses enfants, le cinéaste Bertrand Tavernier, disparu au printemps dernier, salué hier soir au Festival Lumière.
Enfin notre invité à 8h20, ce sera l'économiste Jean-Marc Daniel. Avec lui, on va s'intéresser au plan d'investissement 2030 qu'Emmanuel Macron présentera mardi. Et l'image des femmes dans la mode va-t-elle enfin changer ?
Coup de gueule du magazine Elle cette semaine à l'issue des défilés de la Fashion Week à New York, Londres ou Paris. Je cite son édito, « Nous avons vu revenir sur beaucoup trop de podiums des silhouettes fantomatiques, jambes trop fines, épaules trop osseuses, ventre trop concave. » Alors les marques vont-elles bouger ? Bonjour Béatrice Duguay.
Bonjour.
Certaines d'entre elles ont choisi d'exposer ce qu'on appelle le « body positive » plus représentatif du corps des femmes.
Vous avez peut-être vu fleurir près de chez vous une campagne de publicité pour des sous-vêtements féminins où les mannequins vous ressemblent, nous ressemblent, diverses, de tous âges, avec des mensurations hétéroclites.
Généralement, les femmes sont plutôt plus comme ça. Ce qu'on a sur les pubs, c'est souvent pas la réalité.
C'est une belle campagne de pub parce que je crois que beaucoup de cosmétiques aussi font la même chose, c'est-à-dire de valoriser la femme telle qu'elle est.
Avec nos qualités de nos corps, les défauts de nos corps, sans être photoshopées. Parce que même si les mannequins sont très belles, je pense qu'elles ont aussi leurs défauts quand même.
La marque Decathlon s'y met aussi. Et puis Camailleux qui propose une garantie yo-yo pour ses jeans. Échange de taille possible pendant un an pour les membres de son programme Fidélité si leur poids varie, explique Véronique Baquet, directrice de la marque.
On pense aux grossesses évidemment, mais aussi le stress, la contrariété, malheureusement la maladie dans certains cas, ou plus simplement le changement d'activité ou de mode de vie. On a de multiples occasions pour prendre ou perdre des kilos.
Et pour une fois, ces initiatives semblent dépasser le coût commercial.
C'est plus qu'un coup de canif dans la dictature de l'apparence, en tout cas pour Muriel Gruel. Publicité décomplexante pour cette nutritionniste de Montrouge.
Les tailles normales d'une femme, c'est entre 38 et 44 et non entre 32 et 36. Donc enfin d'avoir une image qui ressemble à l'ensemble de la société, tant mieux quoi. Psychologiquement pour chaque femme en se disant quelqu'un qui me ressemble quoi et puis qui allège en fait cette situation de toujours se dire il faut que je maigrisse.
Muriel Gruel sait de quoi elle parle pour avoir longtemps bataillé avec des régimes.
Explication Béatrice Duguay.
Elle était en garde à vue dans une affaire de trafic de drogue.
Oui, je vous en parlais hier matin. Eh bien la maire de la commune de Canteleu près de Rouen a été libérée hier. Aucune charge n'est retenue contre elle selon son avocat. L'ancienne tête de liste socialiste aux élections régionales en Normandie avait été interpellée vendredi, comme 18 autres personnes. À ce stade de l'enquête, Bastien Thomas, les policiers écartent tout soupçon contre Mélanie Boulanger.
C'est un soulagement pour la maire de Canteleu et ses proches après plus de 36 heures de garde à vue. L'élue socialiste a pu sortir libre hier en fin de journée. Plus aucune charge n'est retenue contre elle. Mélanie Boulanger avait été arrêtée vendredi avec 18 autres personnes, dont son adjoint au développement économique, dans un large coup de filet contre un réseau de trafic de drogue. Cette enquête a démarré en 2019 à la demande d'un juge d'instruction de Bobigny. On parle d'une famille historique à Canteleu, des gens dans le viseur des policiers depuis plusieurs années, indique une source proche du dossier cité par l'agence France Presse. Ce réseau alimentait les principaux points de deal de l'agglomération rouennaise depuis plusieurs années, selon les enquêteurs.
Bastien Thomas, France Bleu Normandie, à Ivry-sur-Seine, près de Paris. Une enquête est ouverte pour tentative d'homicide volontaire après l'agression d'un adjoint au maire. C'était vendredi soir, prise à partie par une dizaine de personnes cagoulées. Il a reçu 3 coups de couteau à la cuisse. La municipalité met en cause dans un un communiqué les violences entre les jeunes de différents quartiers de la ville. Dans le Jura, les vendanges sont terminées, les viticulteurs font les comptes et ils sont mauvais quand le champagne parle de demi-récolte. Les jurassiens, eux, annoncent 70% de pertes, en cause le gel du printemps et le mildiou. Pour Julien Apte, viticulteur depuis 5 ans au Vernois, la situation commence à être critique.
On a gelé en 17, on a gelé en 19 et on regèle encore en 21. Après, ce qui est maladie ou etc., même si une année est très compliquée comme celle-ci, ça peut arriver à peu près à se gérer. Mais les épisodes de gel, moi en 5 ans installé, 3 années congelées, c'est très 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 difficile. On serre la ceinture énormément, on ne peut pas faire d'investissement, puis on travaille énormément. Normalement, si on pourrait se faire un petit peu aider en prenant du personnel, on ne peut pas. Donc on travaille les samedis, les dimanches, on fait des grosses journées et on essaie d'aller au bout. Et on se dit que voilà, l'année prochaine, il faudra absolument, il n'a plus aucun droit à l'erreur, il faudra absolument que la récolte soit bonne. Sinon, moi, personnellement, je serais obligé d'arrêter mon activité.
Julien Apte avec Corentin Debuire, France Bleu Besançon.
L'actualité à l'étranger, Jérôme, avec les bureaux de vote qui ont ouvert ce matin en Irak.
Élections législatives anticipées dans un pays déchiré entre Kurdes, sunnites et chiites. Les chiites proches de l'Iran avaient fait une entrée remarquée au Parlement en 2018 à la faveur de la lutte contre Daesh. Mais depuis, leurs milices ont réprimé la contestation populaire de 2019 et la donne a changé. Aurélien Colli est l'envoyé spécial d'Inter à Bagdad.
Entre les affiches électorales des partis proches de l'Iran et les portraits du général iranien Soleimani, érigé en martyr après avoir été tué par un drone américain à Bagdad l'année dernière, difficile de ne pas sentir l'omniprésence de Téhéran dans cet Irak en déliquescence. C'est notre seul soutien, le seul pays qui nous aide. Moi j'ai été déçu par l'Amérique et par nos voisins arabes, résume Ali, qui soutient l'alliance du Fatah, le principal parti pro-iranien, émanation politique des milices qui ont combattu Daesh jusqu'en 2017. L'Iran a ouvert ses entrepôts, nous a donné des armes, mais ceux qui sont morts, ce sont des Irakiens. L'Iran nous aide, mais pas gratuitement, nuance Karar, la trentaine, qui a aussi vu ses milices participer à la répression de la révolte populaire de 2019. Ce qui doit changer, c'est la corruption, la sécurité et les milices chiites, estime de son côté Kautar, qui déplore un État à la solde de l'Iran, incapable de les mettre au pas. Il y a un désenchantement croissant vis-à-vis de l'Iran. Une large partie de l'opinion publique s'est retournée contre cette influence, même dans la communauté chiite, analyse la politologue Marcine Al-Shamari. Fait rarissime, même la plus haute autorité religieuse de cette communauté a appelé les Irakiens à aller voter, mais pas pour des candidats liés à ces groupes paramilitaires inféodés à Téhéran. Bagdad, Aurélien Colli, France Inter.
L'Irak et son pétrole qui pourraient venir en aide au Liban en contrepartie de services médicaux. Le Liban totalement privé de courant depuis hier. Faute de carburant, 2 centrales électriques du pays ont dû s'arrêter. L'État libanais ruiné n'a pas les moyens de se ravitailler. C'est l'une des personnalités impliquées dans les Pandora Papers, ces révélations sur l'évasion fiscale à travers le monde. Le Premier ministre tchèque Andrej Babiš, battu hier lors des législatives d'une courte tête, mais le milliardaire va tenter de conserver son poste. Il doit rencontrer le président tchèque aujourd'hui. C'était annoncé un combat de titans cette nuit à Los Angeles. Le Britannique Tyson Fury conserve son titre de champion du monde WBC des lourds face à l'Américain Deontay Wilder. Mis KO au 11e round, Fury est allé 2 fois au tapis, mais il s'est relevé à chaque fois.
On termine avec un hommage hier soir à Lyon à Bertrand Tavernier.
Oui, le cinéaste disparu en mars dernier présidait le festival Lumière depuis 2009. Le festival qui s'est ouvert hier soir se devait donc de saluer la mémoire du réalisateur dès la cérémonie d'ouverture. Alexis de Meyer était sur place.
Une longue standing ovation dans la halle Tony Garnier pour conclure l'émouvante séquence dédiée au créateur du festival.
Mettre Lyon sur la carte de l'audiovisuel, je pense qu'il y aurait un projet là-dessus.
Témoin privilégié de cette aventure lyonnaise, Thierry Frémaux, le délégué général du Festival Lumière.
Il venait beaucoup ici pour voir des films et aussi pour transmettre, faire partager la passion qu'il avait de l'histoire du cinéma. Et ça, c'est irremplaçable. Cette célébration de Bertrand Tavernier sera vraiment faite par toute une ville.
Et plusieurs personnalités vont prendre la parole ce soir. Le comédien Samuel Le Bihan, le compositeur Philippe Sard ou encore le cinéaste Costa Gavras.
Je suis suis ravi que cet hommage se fasse ici et que ça soit le plus important possible. Parce que Bertrand, il a fait beaucoup de bien au cinéma mondial et français. Sur beaucoup de metteurs en scène qu'on avait tendance à mettre un peu à la marge. Et on s'aperçoit qu'ils ont fait des œuvres essentielles.
La semaine dernière, c'est l'actrice Irène Jacob qui a été désignée nouvelle présidente de l'Institut Lumière.
Je me réjouis beaucoup de rejoindre ces équipes. Et évidemment, une immense pensée à Bertrand Tavernier qui en a été le président depuis sa fondation. Avec beaucoup de talent et une aspiration inégalable.
Jusqu'à dimanche prochain, 7 films du natif de Lyon sont programmés et notamment son premier long métrage, L'Horloger de Saint-Paul.
Et vous retrouvez tous les films de Bertrand Tavernier dans un coffret DVD exceptionnel en vente dès la semaine prochaine.
C'était Jérôme Cadet et son journal.